Bonjour, nous sommes le lundi 19 décembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est l'émission qui réunit les générations pour échanger les expériences. Le principe en est simple et c'est toujours le même. Deux invités qui partagent la même passion, le même métier, le même engagement. L'un est toujours jeune, l'autre l'est encore. Aujourd'hui, nos invités savent quand le petit oiseau va sortir. Bon, si vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas compris cette blague et c'est pas grave. Ils connaissent les secrets de la lumière et le cadre est leur passion. Ils sont photographes. Quentin Chevrier et Laurent Champoussin, bonjour.
Bonjour, bonjour.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Quentin Chevrier, vous vous souvenez de la première photo que vous avez prise ?
Pas du tout, absolument pas. Je me souviens des premières photos de qu'est-ce que je prenais au début, mais alors la première, j'en ai
alors,
aucune
idée. Les premières, allons-y.
Les premières, c'était beaucoup de photos de skateboard, de mes copains qui faisaient du skate. C'est vraiment par ça que j'ai commencé, que j'ai plongé dans la photo, les sports, sports urbains, roller, skate et tout ce genre de choses.
C'était de l'argentique, c'était déjà du numérique ?
Ouais, c'était au tout début, c'était de l'argentique. Je piquais l'appareil photo de mes parents. J'étais gamin.
Vous êtes très jeune, donc.
J'étais tout début ado. Je piquais l'appareil photo argentique de mes parents qui n'avaient rien d'incroyable, c'était pas du tout du matériel professionnel. Et j'en faisais pas mal et ça les a un peu énervés parce que je commençais à avoir beaucoup de frais de pellicule à développer en plus avec énormément de déchets. Et du coup, ils m'ont rapidement offert, c'était le début du numérique, ils m'ont rapidement offert un petit appareil numérique ouais, pour éviter les frais.
Donc vous n'avez pas commencé par les repas de famille, la photo du chat ?
Non, pas tellement. C'était bien parce que j'avais un grand-père très fan de photos qui était très fan des photos de repas de famille, du sourire de la petite dernière, de la nièce, etc. etc. Donc non, j'étais pas trop là-dessus.
Attention, instant psychanalyse, quand on fait du skate, c'est du mouvement. Quand on fait de la photo, c'est arrêté.
Ouais.
Vous aviez besoin d'arrêter le skate ?
Est-ce que j'ai besoin d'arrêter le skate ?
C'était bien comme instant psychanalyse. Là, c'était.
Moi aussi, parfois, je suis en freeride.
Ah ouais.
Pourquoi c'est sympa d'arrêter le mouvement du skate ? Parce qu'en fait, on ne le voit pas. Ça dure surtout en skateboard, les figures sont très courtes. En fait, ça dure moins d'une seconde. Et du coup, quand on fait une photo de ça et que la personne est en l'air et qu'elle a une bonne position, qu'elle a une figure avec beaucoup de style, comme on dit, la photo permet de prendre le temps de bien voir ça et de l'apprécier ouais, beaucoup plus.
Et vous, Laurent Champoussin, vous vous souvenez de vos premières photos ?
Oui, je m'en souviens, mais en fait, ça dépend un peu de quelle vie il s'agissait, parce qu'il y a vraiment une vie à partir du moment où je suis devenu vraiment photographe à plein temps. Et la vie d'avant, oui, j'ai fait des photos un peu comme Quentin, avec l'appareil argentique de mon père, plutôt de la nature, je crois.
Et alors attention, instant psychanalyse, pourquoi la nature ? La nature, c'est vivant,
parce que
ça bouge.
C'est ce qu'il y avait autour de moi, en fait. Voilà. Je suis pas allé chercher très loin. Voilà, ça c'était les photos pour s'amuser un peu. Et la première photo par contre, où à partir du moment où j'ai décidé vraiment de devenir photographe, je me souviens très bien du voyage, c'était en Allemagne, dans la Ruhr. C'était mon premier défi de photo.
C'était quoi ? C'était de voir des paysages et de se dire là il y a quelque chose à en tirer c'est...
Ouais, voilà, j'avais envie d'un paysage un peu industriel et c'est en tout cas le premier voyage 100% photo que j'ai effectué.
Et comme vous êtes plus vieux, c'était sur Polaroid ou sur argentique ?
Les Larour ou avant ? Larour, non, c'était numérique. Moi, je travaille maintenant qu'avec le numérique. Et avant, c'était oui, avec de l'argentique et puis oui, de l'argentique, oui. Le numérique n'existait pas quand j'ai commencé.
Et ça a changé quelque chose l'un et l'autre, le passage à...
Moi, c'est très important. C'est très important l'outil numérique, en fait. C'est très important pour moi de travailler avec l'outil de mon temps, l'outil qui existe en 2016. Argentique, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des tirages argentiques qui sont magnifiques et qu'aucun traitement numérique arriverait à recréer. Mais c'est important pour moi de m'engager dans un travail avec l'outil de l'époque. Voilà.
On peut dire parfois pour la musique que la musique numérique est dégradée. Est-ce qu'il y a la même chose sur la photo ? Est-ce que même si c'est l'outil d'aujourd'hui, la qualité est peut-être moins bonne ? Quand ? Un des deux qui veut répondre.
Non, moi, je pense pas. Il y avait un peu une sorte de mythe des 10 mégapixels, je crois. C'était la barre terrible qui était qu'en gros, une pellicule, l'appareil photo, ça équivalait à 10 mégapixels en numérique. Et maintenant, les appareils, même je crois que les smartphones montent à 20 mégapixels. Les derniers iPhones, tous ces machins-là ont 20 mégapixels. Tous les appareils photo numériques ont explosé la barre des 10 mégapixels. Donc en termes de qualité, de finesse de l'image, après c'est des questions de grain, de traitement effectivement, mais sinon...
Je crois que sur le tirage encore, il y a des petites différences. Sur les grands tirages, je crois que le numérique, en tout cas de ce que je vois sur ce qu'on appelle les hautes lumières, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lumière dans le ciel, un tirage argentique reste quand même traduit mieux ça qu'un appareil numérique, mais sinon.
Il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Mmh. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir l'œil. Par contre, le numérique, vous permet de tester, de faire n'importe quoi. Vous effacez tout, vous avez dépensé 0 euro en plus comparé à l'argentique. Et ça, surtout pour les gens qui veulent s'y mettre, qui commencent, c'est un plaisir génial parce que vous avez le droit de vous planter tout le temps, quoi.
Si on revient à vos photos de skate à l'époque, vous pensiez que ça serait un jour votre métier, la photographie, ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Comme tout ado, je ne savais absolument pas du tout ce que je voulais faire après. Hein. Je faisais du skate, du roller, du ski. J'étais à Grenoble. la vie était belle.
Et vous mangez des noix ?
Je mangeais parfois des noix, mais bon, pas que.
Je parlais à Grenoble.
Il y a des noix, c'est vrai, à Grenoble. Mais non, j'avais aucune idée que ça allait être mon métier, non.
Et vous avez donc fait quoi comme études ? Vous avez fait des études de photo ?
En fait, pour essayer de résumer comment je suis arrivé à faire de la photo, c'est pas un parcours classique au sens, j'ai pas fait une école pour faire de la photo du tout. En fait, en gros, au niveau du bac, je commence à me poser la question, la photo ça me plaît, est-ce que j'irai pas ? Puis j'ai contacté quelques photographes que mon entourage connaissait et qui m'ont dit, à qui j'ai montré des images, puis ils m'ont dit, écoute, t'as l'air de savoir faire des photos, d'avoir à peu près un œil. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut qu'à ma vie, mais je l'ai suivi. Ils m'ont dit, en gros, va pas faire une école de photo si tu sais déjà faire des photos. Ils m'ont dit, continue à t'entraîner énormément, travaille ça. Par contre, va faire une autre école. Moi, je pouvais faire une prépa et une école de commerce. Ils m'ont dit, va faire ça parce qu'il y a un truc que beaucoup de photographes ne savent pas faire, c'est vendre leurs photos, c'est savoir gérer leur affaire. C'est un boulot d'indépendant. C'est tout un métier et on passe plus de temps à faire de la paperasse et du business, entre guillemets, que des photos, quelque part. Et du coup, j'ai suivi ce conseil-là, j'ai fait ça. Après, j'ai fait plein de métiers différents, dans de la com, dans des trucs artistiques. Puis à un moment, je me suis dit, maintenant, j'y vais à fond, j'arrête de faire ça à côté et j'en fais mon boulot. Quoi.
Mais c'est quoi, en fait, en vrai, le métier de photographe ? C'est faire les mariages, les baptêmes, les enterrements, les bar mitzvahs
Ça peut. Métier de photographe, c'est avant tout quelqu'un qui veut des bonnes photos ou demande d'en faire. Et il y a plein de gens différents qui peuvent en demander.
Ça se fait encore, sachant que maintenant, n'importe qui avec un appareil peut vous faire le film qu'il va mettre sur YouTube.
N'importe qui peut écrire sur un bout de papier. Il y a des gens qui font des romans et qui les vendent et tout le monde fait des romans.
Ça, je vous confirme, plus personne ne lit.
Et n'importe qui peut faire semblant de jouer du piano sur son ordinateur. Et il y a des gens qui sont vraiment artistes et qu'on paye pour aller voir en concert, quoi.
Je crois que être photographe, c'est surtout avoir l'esprit absolument disponible à 100% pour réfléchir aux images qu'on va pouvoir faire. C'est la grosse différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur, il fait autre chose, il a un métier, il a d'autres problèmes à régler. Moi, le vrai luxe, parce que moi, du coup, la photo, c'est ma seconde vie professionnelle. Avant, je travaillais dans le cinéma. Et du coup, le vrai changement, le vrai luxe, c'est du coup d'avoir un temps disponible pour réfléchir, pour imaginer, pour créer, qui est totalement dédié, en tout cas grandement dédié à la photographie. C'est ça la vraie différence entre la pratique amateur et professionnelle. Je crois que ça a un vrai sens pour moi.
Parce que vous faites plutôt de la photo d'art. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça
la
comme ça.
La photo d'art, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est un...
En tout cas, vous ne faites pas des mariages, vous ne faites pas des photos de mariage. Vous pourriez en faire ?
Photo de mariage, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas ? J'en ai fait une fois.
Du portrait, par exemple, des portraits.
Oui, j'en fais beaucoup. Ouais. La photo d'art, oui, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas une définition. Il n'y a personne qui peut labelliser de façon absolue une photo d'art. Après, je crois que c'est ce qui fait la différence, c'est le regard que chacun pose sur la vie, sur le monde. Et c'est un regard singulier qui fait que ça a plus d'intérêt qu'autre chose.
C'est bon.
If the sun would lose its light, and we lived an endless night, and there was nothing left
that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real. If the stars were all on pin and a cold and bitter wind swallowed up the world without a trace, oh well, that's where I would be, what my life would seem to me, if I couldn't lift the veil and see. And if no leaves were on the tree, and no water in the sea, and the break of day had nothing to reveal, that's how broken I would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real. If the sun would lose its light and we lived in an endless night, there was nothing left that you could feel. If the sea was sand alone and the flowers made of stone, and no one that you hurt could ever heal, well, that's how broken I would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real.
C'était l'immense Leonard Cohen et sa voix grave reconnaissable entre toutes dans un extrait de son ultime et posthume album You Want It Darker. Nous écoutions une ballade d'amour qui évoque Suzanne, celle qu'il avait quittée quelques mois plus tôt, If I Didn't Have Your Love. On va revenir à des choses plus joyeuses. Récemment, un professeur de photographie que je connais dans une autre vie m'expliquait qu'il y avait de plus en plus de gens comme vous qui venaient réapprendre à faire du tirage papier. Vous nous avez dit tout à l'heure, Laurent, que vous vouliez à tout prix travailler dans la technologie de votre époque. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à l'histoire de la photo, savoir comment c'est avant avec le papier? Ou ça vous en foutez? Vous avez le droit, hein.
Ouais, je m'en fous un peu. J'ai fait du tirage aussi argentique à la chambre. Après, je crois que c'est un vrai métier. Moi, j'ai mis très longtemps avant de trouver ce qu'on appelle un tireur, un bon tireur, un tireur qui avec qui j'ai envie de travailler.
C'est quoi un tireur ?
Un tireur, c'est du coup celui qui va tirer la photo. Donc là, même si c'est en pigmentaire, en numérique, malgré tout, c'est important.
Tirer, c'est imprimer.
C'est faire un tirage, en fait.
Ouais,
un tirage
imprimer, photo, j'aime pas trop le truc.
Imprimer, ça fait un peu imprimante de bureau.
Tirer, c'est un vrai travail avec des machines.
Du réglage,
la couleur, la lumière. Quand on s'interroge aussi sur le format de l'image finale, c'est quelqu'un qui peut nous aider à savoir si du coup c'est la bonne dimension. Et du coup, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la bonne personne. Et du coup, maintenant que c'est quelque chose que je délègue totalement et que je n'ai pas forcément envie de faire à sa place, C'est voilà. C'est
et vous, Quentin, vous avez eu envie d'un retour aux sources?
Alors moi, j'avais essayé quand j'étais plus jeune de faire quelques tirages, puis ça m'avait pas du tout branché. Je préférais de loin être sur mon ordinateur. Je trouvais que je pouvais faire beaucoup plus de triturage d'images beaucoup plus vite, et ça m'allait très bien. La question commence à revenir parce que j'ai des possibilités de tirage d'art, entre guillemets, et toutes ces questions-là. Donc là, j'ai bien été obligé de rendre physique, enfin tangible, mes images. Après, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans la photo.
C'est quoi ce qui vous intéresse? C'est toujours cette idée de capter le moment?
Moi, c'est vraiment les questions de composition, de lumière, de capter, effectivement, d'arriver à choper les moments. Et aussi, pour moi, l'aspect inventif, quitte à parfois expérimenter en faisant n'importe quoi. Mais je pense que dans la photo, on a énormément de choses encore à inventer. La technologie nous apporte plein de nouvelles choses à faire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de fouiller de ce côté-là, en fait.
Oui, parce que dans votre travail, vous testez beaucoup de méthodes. Je pense à ces photos circulaires dont je serais incapable de dire non parce qu'ils m'échappent.
Photos circulaires, oui.
C'est quoi? C'est l'envie de tester de nouvelles méthodes, de faire autre chose que clic-clac et de prendre ce que vous avez
besoin? Oui, absolument. C'est de montrer les choses surtout, je fais beaucoup d'images dans Paris pour expérimenter. Moi, c'est vraiment l'envie de montrer les choses qu'on a déjà vues un milliard de fois, d'une manière qu'on n'a jamais vue, quoi. Et je trouve ça génial qu'on puisse encore trouver, là, encore faire des photos de la Tour Eiffel que personne n'a jamais faites. Et je sais pas, ça me tient éveillé tard la nuit devant mon ordinateur, quoi.
Alors moi, je crois que malgré tout, il faut aller juste. Enfin, pour moi, c'est très important d'aller jusqu'au bout du geste. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'expérimentation, la composition du cadre, etc. Mais moi, j'ai vraiment besoin qu'au final, la photo elle sorte de l'ordinateur. Ça me fait vraiment bizarre, du coup, qu'elle dorme dans un disque dur. J'ai vraiment besoin, idéalement, du coup, ça devient un tirage encadré, qui est exposé, qui est vendu, qui est acheté. Ça devient une édition, ça devient quelque chose. Mais c'est très important pour moi que l'image sorte et que le geste de la photo, elle se termine vraiment à ce moment-là, quand c'est quelque chose qu'on puisse toucher.
Ça veut dire qu'une photo qui n'est pas tirée, pour vous, elle n'existe pas?
Elle n'existe pas totalement.
Et pour rien de votre travail, vous, votre créativité, elle va aussi s'exprimer par les supports que vous trouvez. Vous faites des You've Got a Mail où vous envoyez ou de la correspondance, où vous avez aussi fait des petits albums de voyage. Vous cherchez en permanence.
Vraiment, un projet se termine vraiment quand on peut le toucher, quand on peut le feuilleter, l'ouvrir. Donc c'est encore une fois soit sous forme de tirage que je propose, sous forme d'abonnement où les gens reçoivent donc du coup un tirage dans une enveloppe par la poste, de façon un peu classique. Soit c'est des petites éditions. Je fais beaucoup d'auto-éditions, donc directement là du coup avec des outils que j'ai à la maison. Ça peut être des éditions un peu plus perfectionné que je fais faire dans un laboratoire, et ça peut être des tirages. Encore une fois, c'est la meilleure façon de voir les images. Mais voilà, oui, il y a toujours ce passage là au papier d'une façon ou d'une autre qui est important.
Alors moi, en fait, vous l'avez peut-être remarqué, je suis une fille, et conséquence à la chose, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, des trucs de filles. Donc la photo, pour moi, évidemment, c'est ce monde merveilleux de David Hamilton à Patrick de Marchelier, qui évidemment ne met en valeur que des femmes dont je ne sais même pas si elles existent en vrai. Bref, il y a plusieurs catégories de photographie, dont la photographie de mode fait partie. Est-ce qu'en fait, finalement, un photographe, il doit être bon à tout?
Bon, en tout, c'est difficile. Je crois qu'encore une fois, il doit être, il doit imposer son regard. Alors, soit il est très très fort et il arrive à jongler sur plein de domaines différents. Mais c'est ça qui est important. Après, moi, j'ai fait très très peu de photos de mode, mais j'en ai fait dans les conditions dans lesquelles je me sens bien, c'est-à-dire de quelque chose de très souple, de très simple. En lumière naturelle, avec des modèles qui ne sont pas professionnels.
Aux Seychelles.
Non, à Paris, dans un atelier, face à un mur blanc, des choses, voilà, des dispositifs dans lesquels je me sens bien. Et ça, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi parce que voilà, c'est la façon dont j'aime travailler. Et du coup, au final, il y a quelque chose qui sort.
Et la photo, en fait, donc vous disiez, c'est capter un moment, c'est évidemment un rapport au temps, en fait. Et je me demandais, en fait, s'il n'y avait pas une perte un petit peu de, on va dire, d'exigence et de sens quand en numérique, on peut justement multiplier le nombre de prises et donc ne pas rater un moment par rapport à, par exemple, je ne dis pas un douaneau qui mettait en scène, hein, c'est... ces photos, mais par rapport à, je sais pas, un Salgado par exemple qui les prend sur le vif ou voilà, et qui travaillait en argentique devait vraiment ne pas rater sa photo.
Bah oui et non en fait, parce que Salgado déjà s'est mis au numérique depuis un petit moment.
C'est vrai. Mais moi je suis resté au school.
Et il adore ça.
Et ouais, mais je suis resté au school moi.
Et après il reste que même que ce soit du numérique ou de l'argentique, c'est plus dans l'après, mais dans le fait du moment où on appuie sur le bouton, si quelqu'un a je sais pas une émotion sur un visage, comment dire, un geste en particulier lors d'un événement, ou on prend beaucoup de photos de politique en ce moment. Ben, c'est des photos que vous soyez avec de l'argentique ou du numérique. Si vous avez raté le centième de seconde où ça marche, ben après c'est cuit quoi, de toute façon. Hein. Ça n'a pas forcément changé grand chose à ce qu'on appelait le fameux moment décisif.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça change pas grand chose. Et puis la photo s'est faite aussi d'accidents heureux. De choses dont on n'imaginait même pas qu'ils puissent arriver sous nos yeux, donc c'est pas forcément le support qui fait la différence. Après c'est une histoire de tri, la différence entre l'argentique et le numérique, mais je pense que s'il y a une bonne photo à prendre à un moment très précis, c'est pas le numérique qui va permettre de rallonger ce moment. Si on l'a raté, numérique ou argentique,
ça ralentit pas le temps en face de soi.
Argentique et numérique, les ratages sont toujours des ratages.
Ouais, parfois ça a du bon. Après, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut beaucoup plus mitrailler sans... Mais en fait, ça marche pas tant que ça, de mitrailler comme un fou. On voit pas ce qui se passe et c'est pas si pratique que ça, quoi. Donc, mais après, on a toujours une grande nostalgie sur l'histoire de l'argentique et tout ça. Moi, je prendrais le pari que s'il y a des types comme Douaneau, Cartier-Bresson et compagnie vivaient maintenant, ils prendraient des photos avec leur iPhone, quoi.
Ils
s'embêteraient pas à aller chercher des appareils qui ont 70 ans.
Il y a un très très joli article de Tillmans, qui est un photographe allemand que j'aime beaucoup, qui a écrit, qui est passé au numérique et qui a expliqué pour quelles raisons, et qui est vraiment super important aujourd'hui. Ce qu'il y a aussi à l'inverse, c'est que l'argentique, ce qui m'agace un peu, c'est que c'est devenu un effet de mode aujourd'hui. C'est présenté comme un label.
Le retour du Polaroid.
Des photos argentiques.
C'est vintage. Genre.
Voilà. C'est comme si c'était tout de suite une caution de valeur ajoutée, alors qu'on peut faire des grosses bouses en argentique.
C'est vrai.
Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu remis en avant aussi comme un étendard du bon goût et de. Voilà. C'est des questions qui me passent un peu au-dessus de la tête.
Son style est tellement imagique. Je vais recommencer. Son style est tellement imagé que ses chroniques valent bien des photos, d'autant qu'elle évite toujours les clichés. Oye, oye, voici l'heure d'écouter Abeline.
Bah, merci. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous parlons chambre noire, caméra obscura, cette image inversée projetée par la lumière. Ni Sephore, ni Pse. Je ne sais plus comment on dit, mais
on
ça doit être ça.
Je crois.
Ouais, mais ça me plaisait bien, Nips. L'a inventé aux alentours de 1812. La première photographie représente une aile de sa propriété à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire. Magnifique. Un cliché de 16,2 x 20,3 cm que vous pouvez admirer à l'université d'Austin.
Au Texas, donc.
Ouais, au Texas, parce qu'il a fallu au moins 2 heures de pause pour la réaliser. Il a fallu moins d'heures de pause que cela au premier photographe de profession, car la profession de photographe a paru aux alentours de 1839. Tout le monde venait en famille se faire tirer le portrait. Élevée au rang d'art, la photographie a vu éclore autant de grands artistes que Man Ray, Diane Arbus, Cartier-Bresson, Brassailles, Annie Leibovitz ou Salgado, que j'adore. En noir et blanc, sur vert, sur daguerréotype, en polaroïd, la photographie a conquis le monde et s'est démocratisée. Clic-clac, Kodak, disait-on dans les années 80, année dorée pour la photographie. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a le selfie, l'image de soi qui n'en est pas vraiment une. Tous nos appareils sont équipés de caméras, prennent les photos en rafale de souvenirs, les filtres même pour leur donner l'air plus vrai, plus belle, et vous permettre même de créer l'un des couronnes de fleurs avec Snapchat, l'autre une déstructuration de l'image pour la rendre pseudo-artistique avec Prisma.
Avec Snapchat, je peux même ressembler à un lapin.
C'est vrai ?
Ouais.
Et ça fait du bien ?
Je vous montrerai.
Ouais, j'adore. Avec Prisma, je ressemble à un Modigliani.
Mais vous êtes un Modigliani.
Ce qui change le plus, c'est le statut de la photo qui est aujourd'hui véritablement une image partagée. Car finalement, ce qui est en jeu aujourd'hui dans l'image, c'est une narration visuelle. Bien que séquentielle, la photographie pense et fait récit. Et le selfie n'est rien d'autre qu'un récit de soi. La communication autour de l'image n'a jamais été aussi grande. Évidemment, cela pose une question de droit. Comme le disait ce grand philosophe Patrick Bruel, qui a le droit ? Qui a le droit de faire cela ? C'est la question qu'a posée à la justice une jeune Autrichienne qui a poursuivi ses parents pour avoir posté des photos d'elle sur Facebook et qui ont fait le tour du monde. Ce fait divers est un fake, mais l'interrogation reste justifiée car non seulement les sujets de l'image ont désormais accès à la parole, mais c'est le public lui-même qui prend leur défense. L'extension du contrôle de l'image de soi est évidemment un progrès des droits individuels. Comme les féministes qui revendiquaient le droit à disposer de leur corps, nos contemporains sont de plus en plus nombreux à estimer que leur image fait partie des biens dont ils sont les gardiens. Et en parlant de féministes, rappelons que sans Photoshop ou sans Instagram, nous n'aurions pas vu les fesses de Kim Kardashian. Et ça, évidemment, c'est mieux qu'avant.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Laurent, justement, vous êtes... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit justement, ça n'a rien à voir. Laurent Champoussin, vous êtes aussi photographe de plateau pour le cinéma. Quelle est la particularité de ce métier ?
Alors, je ne suis pas photographe de plateau, parce que pareil, photographe de plateau, c'est une spécialisation.
C'est un métier.
Ouais, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et moi, je ne fais pas ça, en fait. Je suis photographe sur un plateau de cinéma. Et
de l'importance des prépositions.
Mais ouais, c'est important
dire à nos auditeurs.
Ouais,
quand même.
C'est important, j'y tiens. Et du coup là, c'est un peu différent. C'est vraiment le type de commande du coup qu'on me propose et que j'ai très envie d'accepter, qui sont super intéressantes. C'est que j'ai une carte blanche vraiment sur le tournage. Donc j'essaye de capter à la fois des moments qui sont vraiment issus de l'histoire qui est en train de se passer, de se tourner avec les acteurs du film, dans les décors, dans la lumière qui est proposée par le directeur de la photographie. Et aussi, je photographie aussi ce qui se passe autour et ce qui m'intéresse autant que la partie fictionnelle, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des techniciens qui sont à côté du plateau. Et, voilà. Et du coup, la carte blanche, elle est à la fois tournée vers eux et vers les acteurs du film. Et c'est quelque chose qui me plaît bien.
Quentin, c'est une expérience qui vous tenterait ou vous avez déjà fait peut-être ?
J'ai pas fait de cinéma, j'ai fait sur un plateau de pub. C'était assez sympa. Il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était le problème du silence. Parce qu'en fait, faire de la photo, quand on a un réflexe, ça fait du bruit, toujours. Le fameux clic-clac dont tu parlais pendant la chronique. On l'a encore, ce truc-là. C'est une question de miroir qui bouge dans l'appareil. Et le problème, c'est que pendant la prise, au moment où on peut vraiment prendre l'image de l'acteur qui fait son truc et qui va correspondre à la pub, eh ben, on ne peut pas la faire. Parce que sinon, ça fait un clic-clac et qui fait tout de suite, l'ingénieur du son nous saute dessus et nous engueule. Du coup, je trouvais ça assez intéressant d'arriver à trouver des images qui reflètent quand même l'esprit du tournage et parfois même de ce qu'il y aura vraiment dans le clip ou dans l'image à la fin sans la prendre pendant qu'elle est vraiment faite. Quoi. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai expliqué. Oui, mais ouais.
L'un et l'autre, vous prenez parfois votre smartphone pour faire des photos dans la rue ?
Ouais.
Ouais.
Alors mon problème, c'est que là, je l'ai cassé. Du coup, je ne peux plus faire de photos avec mon téléphone.
C'est quoi ? C'est comme des brouillons, comme un écrivain qui ferait des brouillons ?
Ouais. Ça m'arrive. Parfois, c'est du repérage parce que, je ne sais pas, j'ai vu un truc, un endroit, une rue, n'importe quoi qui m'intéresse bien. Je faisais une série récemment sur les drapeaux que mettaient les Parisiens dans la rue suite aux attentats. J'ai vu toute une série de ces drapeaux-là. Et du coup, j'en prenais plein avec mon téléphone. Après, je les mettais sur une carte en disant, il y en a un là, il y en a un là. Et j'ai retourné après avec mon appareil, avec tout le matériel et à la bonne heure de la journée. Et puis sinon, bah, aussi comme tout le monde, hein, pour prendre des photos de tout et n'importe quoi, des souvenirs, etc. etc.
Alors encore une fois, moi je suis une femme, donc je pose les questions cons et pragmatiques. Ça gagne combien un photographe et est-ce que c'est un métier d'avenir ?
Métier d'avenir, j'en sais rien. Ça, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas si toi, tu peux répondre. Ça
gagne combien ? Je pense pas que c'est un métier mort en tout cas ou qui est en train de mourir, qui est en train de changer sans doute. Mais,
comme en France, c'est un métier dont on vit.
Oui. Alors peut-être pas tout le monde, et pas tout le monde pas au même niveau en tout cas, ça c'est certain. Il y a des photographes.
Vous multipliez l'un et l'autre les travaux, peut-être pour y arriver. Vous pouvez travailler pour des grandes marques, pour des journaux.
Oui, mais je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas fermé à un type de commande ou un type de demande. Après, à voir ce que les gens nous demandent, est-ce que c'est faisable et puis est-ce qu'il y a un budget qui correspond en face. Mais
c'est combien une photo ? Ça coûte combien ?
Ça dépend de beaucoup de choses.
Ça, c'est très compliqué.
Ça dépend de la dimension de la photo, ça dépend de la notoriété du photographe, du nombre d'éditions, parce qu'une photo, elle est limitée pour une photo d'art. Donc, ça dépend si elle est tirée à 2 exemplaires ou à 150 exemplaires, ça modifie le prix. Mais là, tout est possible. Je parlais de Tillmans, là, qui du coup est très très bien coté et qui va avoir une rétrospective à la Tate. Il fait des tirages uniques de ces grandes photos qui doivent faire autour de 1 mètre par 1,50 m. C'est 80 000 euros. Mais voilà, c'est pas
ça
du
coûte
tout.
Combien de faire un tirage
de cette grandeur-là?
Ouais, pour un photographe, ça coûte combien en fait? Parce que c'est vous.
Alors,
qui
juste le tirage,
tirage
ou le, ouais, les finitions avec l'encadrement et etc.
Oh, on va pas faire les finitions, on va rester à la.
D'accord, on se connaît pas assez bien.
Non, c'est ça.
Un tirage de 1 mètre par 1 mètre 50, ça doit coûter 300 euros, quelque chose comme ça. Après, ça dépend. Ça veut pas dire grand-chose quand je dis 300 euros, hein, parce que peut-être il faudra refaire le tirage 10 fois parce qu'on n'est pas totalement satisfait du résultat, donc ça sera un peu plus cher. Mais le rapport entre le prix, le coût du tirage, tu crois que tirage ça vous plaît bien en fait comme terme, c'est ça?
Pardon, je suis désolée,
c'est nerveux.
Le rapport entre le coût du tirage et le prix d'achat a pas beaucoup de sens en fait.
Ouais, en photo d'art.
C'est comme si on demandait, excuse-moi, à Picasso, ouais, le prix du papier pour faire un dessin.
Ouais.
Et puis, comment on fait quand les gens ils sont pas photogéniques?
Ben, les prendre d'eau. On éteint la lumière.
Allez-y, Quentin, vous voulez ajouter quelque chose?
On bosse. Ah oui, alors sur l'histoire des prix et tout ça, donc il y a effectivement les photos d'art qui sont vendues, dont on achète les tirages, les encadrements, etc. Et après, il y a aussi plein d'autres types d'images. De, je sais pas, il y a la photo de presse qui est avec des commandes, il y a les photos de pub, une pareille. Enfin là, ça peut aller de, je sais pas, les photos de mariage qui vont rarement en dessous de 1500 euros pour un week-end, mais ça peut monter jusqu'à 30 000 euros pour un week-end de photo de mariage, quoi. Ou une photo d'un photographe super connu en mode pour une grosse campagne de pub ou quoi, c'est pareil, ça peut coûter une photo, peut coûter des dizaines de milliers d'euros, quoi.
Vous faites des selfies parfois?
Je suis pas super selfie, non. Non, ça m'arrive de prendre des photos de moi pour tester des trucs. Avant d'aller faire une séance de portrait, je veux tester un éclairage, je prends des photos de moi, mais c'est pas du tout dans la démarche.
Non, je fais pas. Jamais.
Vous venez d'écouter La Relève, une émission présentée et proposée par Abine et Christophe. À la réalisation, il y avait Jérôme. Retrouvez-nous sur la page Facebook La Relève Radio Campus. Bonne semaine à tous et à dans beaucoup plus que 167 heures, puisque vous allez tous pouvoir passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année, faire des photos, faire des selfies, nous les envoyer, nous les poster sur la page Facebook. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à l'année prochaine.